Et donc, le passage qui sert de support à ma réflexion, c'est Genèse 32. Et dans Genèse 32, vous avez cet épisode très particulier dans la vie de Jacob et de sa famille. C'est qu'il revient de chez Laban, après avoir passé une vingtaine d'années en dehors de la terre promise, et il revient. Alors, si vous lisez le début du chapitre, on voit que Jacob est reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour tous les troupeaux qu'il a. Rappelez-vous, hein, quand il est parti de la terre promise, il avait demandé à Dieu de ben voilà, je viens te servir à condition que tu me bénisses, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que d'un côté, il a trouvé plus magouilleur que lui en la personne de Laban. Donc, il a récolté ce qu'il a semé et Dieu l'a discipliné et l'a amené dans un processus de sanctification partielle, en tout cas. Mais en même temps, il a été béni. Il a été prospère, il a des enfants, il revient beaucoup plus riche qu'il n'est parti, c'est une évidence. Mais il y a un problème qui n'est pas réglé, c'est le problème avec Ésaü, premièrement. Alors, Jacob, même s'il a peut-être au bout de 20 ans changé un petit peu, il y a quand même un trait de caractère, c'est que Jacob, il essaye de prévoir les choses. Et donc, il divise le camp en deux, il envoie des gens un peu devant lui, voire un peu tâter le terrain avec Ésaü, mais ce n'est pas trop le sujet de ce soir. En tout cas, on peut imaginer Jacob, il a l'angoisse quant à savoir comment va se passer la rencontre avec son frère. Il revient aussi en terre promise, c'est-à-dire que même s'il est riche, mais il va recommencer une nouvelle vie. Et on sait qu'après, il va s'en passer des choses. Hein. Il va perdre Joseph, il va ensuite vivre ce qu'il a à vivre avec ses enfants, la famine, le séjour en Égypte. Il va croire même avant que Benjamin est mort aussi. Enfin, voilà, c'est pas terminé. Pas terminé dans la vie de Jacob. Mais là, il revient. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 22, donc de Genèse 32, il est dit « Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Alors déjà, une chose qui est intéressante, ça ne se voit pas trop en français, un peu, mais en hébreu, il y a un jeu de mots, en fait. Parce que lui, il s'appelle Jacob, et en même temps, il y a comme un anagramme, là. Le gué, il s'appelle Jabbok. Et donc, quand vous lisez en hébreu, en fait, il y a trois termes qui se ressemblent. C'est-à-dire que dans l'événement, Jacob est investi dans ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas qu'il est investi, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose, mais rien n'est au hasard, en fait. Et donc, il veut passer le gué de Jabbok, et il est dit, il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et ça, c'est un point déjà intéressant qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Dieu travaille notre vie par différentes circonstances, et parfois, Dieu est dans les circonstances. Parfois, Dieu travaille notre vie au travers des relations, bonnes ou mauvaises, qu'on peut avoir avec les autres, soit des tensions, soit des oppositions, d'adversité, voire de la persécution. Ou alors, on peut aussi avoir des personnes qui nous bénissent, qui nous font du bien et qui nous communiquent de l'amour. Et Dieu est dans ces relations. Que ça soit dans ses relations faciles ou difficiles. Quand je dis qu'il peut être dans les relations difficiles, c'est dans le sens où Dieu se sert de cela aussi. Il permet cela dans notre vie pour à nous amener à la croix, apprendre à pardonner, apprendre à aimer inconditionnellement, apprendre à être patient, etc. Mais il y a d'autres situations où on est seul avec Dieu. Il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de relations particulières, c'est nous avec Dieu. Et ces moments sont très importants. Ils sont parfois moins nombreux. On a peut-être parfois tendance à les éviter parce qu'on ne peut pas éviter une relation bonne ou mauvaise comme on ne peut pas éviter une circonstance. Par contre, on peut éviter de parler avec Dieu. Voire, on peut éviter de lutter avec Dieu, comme ça va être le cas. Et on va voir que Jacob ne va pas laisser passer cette circonstance. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que même si Dieu utilise plein de moyens pour la sanctification, il y a quand même des moments vitaux dans la vie où on est seul avec Dieu à prendre une décision. Et des fois, ça peut être d'ordre presque, comment vous dire ça, mystique, dans le sens où il s'agit de notre âme et de notre esprit. On n'est même plus dans le domaine de la vie terrestre. C'est qui je suis, qui tu es, Seigneur, pourquoi j'ai cet état d'âme. Il y a des gens, des fois, qui vont pas bien alors que tout va bien. Ou des fois, on se dit, ben, Seigneur, je n'arrive pas à t'aimer en ce moment, je n'arrive pas à me réjouir, je suis peut-être indifférent devant certaines choses. Des fois, je suis indifférent devant les gens. Ou au contraire, des fois, je me fais trop de soucis. Mais Seigneur, voilà, je suis devant toi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, Seigneur, dans ce domaine, je n'arrive pas à prendre la bonne décision, je n'arrive pas à plier le genou. Et encore une fois, alors après, pour m'exprimer un peu mieux, je pense des fois à l'appel que Dieu a sur notre vie. Pourquoi on est appelé dans telle ou telle église? C'est des fois devant Dieu qu'on doit prendre cette décision. Même si l'église est faite de gens, oui, les gens sont sympas, même si c'est fait de circonstances, l'église n'est pas loin, l'église a un bon enseignement, mais il y a des moments où on doit s'engager seul devant Dieu et lutter avec Dieu devant un appel. Ça peut être l'appel de déménager, l'appel de prendre un tournant dans notre vie. Ça peut aussi la façon de gérer son couple ou de vivre son couple ou d'éduquer ses enfants. On est seul devant Dieu. Et c'est dommage, surtout dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où tout passe vite, on fait plein de choses. Et quelque part, c'est intéressant parce que nous, dans nos églises, on va montrer, on va enseigner le fait que ce n'est pas par les œuvres que l'on est justifié, mais par la grâce et la foi. Mais parfois, on va se justifier avec nos œuvres pour ne pas passer du temps avec Dieu. Et ça, c'est une aberration. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, qui écoutent mes enseignements, mais je parle souvent de la méditation, je parle de la solitude, je parle de ces temps qu'on doit avoir avec Dieu et qui sont vitaux pour pouvoir passer du temps correct avec les autres et pouvoir passer les situations difficiles qui sont les nôtres, ou voire même les situations qui sont bonnes, mais qui peuvent être des pièges aussi dans la vie chrétienne. Et si je n'ai pas un peu de recul, même les bonnes choses peuvent devenir une pierre d'achoppement. Et donc là, on voit que Jacob est en train de, je ne dis pas de magouiller, mais d'agencer les choses, de préparer. Il fait des choses, mais à un moment donné, il est seul. Et il se retrouve seul comme il l'a été lorsqu'il est parti de la terre promise. Rappelez-vous, quand il a dormi sur un rocher qui lui a servi d'oreiller et qui a eu l'ange de l'Éternel qui est descendu du ciel, qui montait, qui descendait sur les échelles, il était seul. Là, il n'y avait plus son frère, il n'y avait plus sa maman, il n'y avait plus son père à qui il avait menti. Il n'avait même plus ses troupeaux, il n'avait plus rien, il était nu. Mais il y avait Dieu. Et c'est la première fois que Dieu lui a parlé, selon ce que Genèse nous dit. Parce qu'avant cette fuite vers Laban, on ne voit pas Jacob parler avec Dieu. On voit Jacob parler de Dieu, essayer de contrôler les choses de Dieu, obtenir le droit d'aînesse, mais il n'a pas de relation directe avec Dieu. Et Dieu lui parle ce jour-là. Et donc, dans la tête de Jacob, je suis sûr que, alors que comme par hasard, il est en train de revenir en terre promise, quand il est parti de la terre promise, Dieu lui parle, et là, il lui a parlé. Et quand il était ensuite avec Laban, hein, il y a eu des moments, mais là il revient et Dieu va faire quelque chose. Et donc, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et ça, c'est intéressant parce que cette scène, on le sait, hein, ça résume quelque part la vie de Jacob, c'est-à-dire que Jacob n'arrêtait pas de lutter avec Dieu. Il luttait avec Dieu en permanence. Tout en étant spirituel par ailleurs. Ça, c'est un point important que les gens ne comprennent pas. Des fois, vous savez, dans l'Épître aux Romains, il est dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. On sait, hein, dans le langage sémitique, qu'on utilisait toujours l'exagération. En fait, si on devait faire une traduction à équivalence dynamique, ce serait plutôt de dire « j'ai préféré Jacob à Ésaü ». C'est ça que ça signifie. Mais pourquoi Dieu a préféré Jacob qui… Alors, on sait qu'Ésaü, c'était un profane, hein, puis le Nouveau Testament en parle. Mais Jacob, quand même, pourquoi préférer Jacob? Tout simplement parce que Dieu a discerné la volonté de Jacob de chercher les choses de Dieu. Je chose qu'Ésaü ne cherchait pas. Et donc, mais là où il luttait quand même avec Dieu, c'est qu'il voulait obtenir ce qui était bon au lieu de le recevoir. Et la grâce, c'est recevoir. C'est pas d'essayer d'obtenir, c'est pas d'essayer d'avoir quelque chose. C'est recevoir. À la limite, les choses sont les mêmes, mais c'est pas reçu de la même façon, ce n'est pas donné de la même façon. Jacob a vu que le droit d'aînesse était bon, mais il l'a pas reçu, il l'a volé. Mais avec le temps, Dieu va travailler dans la vie de Jacob pour lui apprendre à recevoir. Et là, c'est ce qui va se passer dans ce combat. Et Dieu aura permis pendant 20 ans tout ce parcours pour l'amener à cette situation-là. C'est ce que tu désirais était bon, mais tu ne voulais pas l'obtenir de la bonne façon. Et on peut être comme ça. C'est-à-dire qu'on peut discerner, voilà, ça c'est un bon enseignement. D'accord, mais est-ce que tu veux simplement l'obtenir, cet enseignement? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, je veux le comprendre, je veux l'analyser, je veux l'intellectualiser, je veux le comparer avec d'autres enseignements. Ok, c'est la vérité, mais tu ne la reçois pas, tu es en train d'essayer, toi, d'y mettre ton sceau. Mais tu ne la reçois pas par la foi. Tu la reçois dans ta logique. Ta logique est bonne, mais ça ne veut pas dire que tu reçois de Dieu. Et en revanche, tu peux avoir un message qui est le même, c'est le message de la vérité, mais où tu dis, Seigneur, je prends comme un enfant, la foi d'un enfant. Et c'est ça qui nous transforme. C'est pas la logique qui nous transforme, c'est la vie de Dieu qui nous transforme. Et la vie de Dieu n'est pas logique, c'est la vie. Je me rappellerai toujours une phrase de Pasteur Steven, c'était à la conférence de Berlin, à la louche, en 99 peut-être, où il avait dit, ah non, c'est pas lui, c'était un autre pasteur dans une intro. Ce pasteur avait dit, quand on veut disséquer la vie, on la tue. On ne peut pas disséquer quelque chose sans le tuer. On dissèque les morts, on ne dissèque pas la vie. Et il ne faut pas, nous, dans notre christianisme, être là à disséquer les choses. On a besoin de marcher par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas notre intelligence, ça soit une intelligence spirituelle. Et donc là, on voit qu'il arrive à un moment donné où il lutte avec Dieu pour être béni. C'est bien, mais regardez, on va le lire après, mais il veut recevoir de Dieu maintenant. Il lutte, mais il veut recevoir. Et il ne sait même pas quoi il va le recevoir. Il ne demande pas quelque chose de précis. Il veut être béni, simplement. Il veut recevoir. Vous voyez le changement dans sa vie ? Et donc là, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça, c'est un point important. C'est que, selon le texte qui est écrit, je continue verset 25, « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, donc c'est l'ange qui parle, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et c'est intéressant parce que cette apparition intervient la nuit, tout comme c'était intervenu la nuit aussi quand il avait quitté la terre promise. Et ça nous parle du fait que selon l'opération divine dans la vie de Jacob, cette intervention où il lui parle face à face, ça peut se faire que la nuit. C'est-à-dire que c'est un temps précis. L'aurore se lève, donc moi, l'ange de l'Éternel, je dois partir. Et ça, c'est un point important dans notre vie chrétienne, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Ça, c'est des proverbes qui nous concernent. Mais c'est pareil pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Dieu va faire des choses un certain temps, et puis après, il fera autre chose. Il ne faut pas rater ces temps. Il ne faut pas croire que sous prétexte que Dieu a le temps, parce qu'il est éternel, que les choses durent éternellement. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'Éternel est là, il veut faire quelque chose. Et rappelez-vous la phrase que Jacob a dite la première fois quand il fuyait. Il dit « L'Éternel était là et je ne le savais pas. » Sous-entendu, je dormais. Sous-entendu, je suis passé à côté. D'un côté, j'ai reçu une promesse, mais moi, je n'étais pas conscient. Je n'étais pas là, je n'étais pas réveillé. Et là, Jacob est réveillé. Il ne dort pas. Et toute la nuit, il se rend compte que c'est le moment d'obtenir la bénédiction, c'est le moment de se battre avec Dieu. Et quand on parle de se battre avec Dieu, là, ça ne veut pas dire aller contre, parce que Jacob s'est battu contre Dieu, encore une fois. Il cherchait les bonnes choses, mais en même temps, il essayait d'obtenir de la mauvaise manière. Un peu comme s'il y a quelqu'un qui vous invite chez vous, il y a un gâteau au frigo, vous allez le manger, mais vous, vous ouvrez le frigo, vous servez alors que vous n'avez rien demandé. Bon, bah, le gâteau était pour vous, mais vous l'avez mangé d'une manière qui ne plaît pas à celui qui voulait vous donner le gâteau. Bah, c'est un peu la même chose avec Dieu, des fois. Dieu a des choses pour nous, mais on veut les prendre d'une mauvaise manière. Et là, Jacob, donc, il lutte avec Dieu et il y a un temps précis de lutter, c'est de lutter, dire « Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi, c'est à toi de me le donner, c'est à toi de prendre l'initiative. Mais moi, du coup, je ne veux pas te lâcher, je veux en profiter. » Et ça, c'est un point important qui est de profiter des moments que Dieu nous donne. Et notamment des moments où Dieu est en train de parler fort, où Dieu est en train de faire quelque chose. C'est d'être concentré sur les moments que Dieu nous donne. Alors, par extension, on peut parler d'autre chose aussi. Ce n'est peut-être pas le sujet là dont je suis en train de parler, mais je fais une petite digression. Par exemple, même si le temps peut paraître long, c'est peut-être bizarre que je vous parle comme ça, mais on est marié un certain temps jusqu'à ce que l'un des deux rejoigne le Seigneur, bah, c'est le temps d'en profiter. Bah, oui, mais j'en ai profité, je suis marié depuis 30 ans, depuis 40 ans, oui, mais profite, c'est un temps. T'as deux jambes pour marcher, profite, c'est un temps. T'as la santé, profite, c'est un temps. Tu es pasteur d'une église, c'est un temps. Peut-être que tu ne le seras plus tout le temps. Peut-être que tu seras pasteur d'une autre église, mais pour l'instant, c'est celle-là. Et lutte avec Dieu avec ça. Vis des choses avec Dieu. C'est maintenant. C'est-à-dire de ne pas être dans une routine. Alors, tant bien, ça peut durer longtemps. Ce n'est pas grave. Moi, je suis des fois... Alors, des fois, c'est peut-être une attitude naturelle que je peux avoir, mais des fois, ça peut être un avantage quand ça passe par la croix. Moi, je suis un boulimique de la vie, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, c'est un peu ça, une forme d'exigence. Alors ça peut amener à du perfectionnisme, ça peut amener à un manque de contentement, parce que justement on veut le maxi, on ne se contente pas. Mais l'avantage que j'ai eu tout au long de ma vie, même avant que je sois chrétien, mais aussi après, c'est de profiter des choses que j'ai, vraiment. On en parlait avec Pasteur Chaleur quand il était à Paris, on parlait de nos vies d'église, et que ça, voilà, il y a des saisons, il y a des bonnes et des mauvaises saisons, etc. Et il disait, à la fois, il ne faut pas comparer, et puis en même temps, il y a des choses, voilà, il y a des saisons mieux que d'autres, mais il disait, par exemple, l'Enox, dans le ministère, ça a été un temps. Mm-hmm. Puis après, il y a eu un autre temps avec Pasteur Stevens à Baltimore, puis après, il n'y avait plus Pasteur Stevens. Dans la vie de Pasteur Scheller, il y a eu un temps en Finlande, il y a eu un temps en Hongrie. Et c'est pareil dans notre vie, il y a un temps, et bientôt l'aurore va se lever, c'est-à-dire il va y avoir autre chose, il va y avoir une nouveauté, mais pour l'instant je me bats avec Dieu, tu vois. L'ange il dit là, l'aurore arrive, il faut que je parte maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour recevoir il faut être faible très souvent, parce que quand on est fort en soi-même, on va prendre les choses par nous-mêmes. Et donc qu'est-ce que va faire l'ange? Il va frapper à l'envoiture de la hanche et l'envoiture de Jacob, donc, et l'envoiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et qu'il est en train de dire ça alors qu'il a la hanche déboîtée. Vous voyez, il ne le dit pas en pleine possession de ses moyens. Normalement, naturellement, il aurait dû peut-être demander ça avant. Mais maintenant que l'ange lui a fait ça, on va se dire, bon, allez, je fais profil bas, il veut partir, je n'ai pas envie de me reprendre encore la même punition à l'autre hanche, je me tais. Et bien, en boitant, je ne te laisserai pas partir. C'est ridicule, déjà un homme devant un ange, je ne fais pas le poids, mais là, avec sa hanche démise, tu sais, ça me fait penser à des films où je crois que c'est un Astérix ou je ne sais plus, le personnage, il se bat contre un gars plus fort, puis il dit, je vais te battre et tout, il est ridicule. Ben là, c'est ça, c'est ridicule. Mais pourtant, c'est ça que Dieu nous demande parfois. Pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse qu'on va être fort, par lui. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'ange lui pose une question. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. On sait hein, ce que ça veut dire, Jacob, magouilleur, tricheur, etc. C'est-à-dire que derrière ça, il y a une confession. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Et qu'est-ce qui se passe encore? Verset 28, il dit encore, donc l'ange, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est-à-dire que tu ne rentreras pas en terre promise avec ta vieille nature. Tu ne rentreras pas en terre promise avec ta vieille nature. Il n'y a pas de place pour la vieille nature. C'est la nouvelle. Et c'est ça la lutte avec Dieu. C'est qu'en fait, je veux obtenir ce que je suis en toi, Seigneur. Ce n'est pas simplement obtenir quelque chose. C'est intéressant parce que là, il ne va pas obtenir un troupeau plus grand, une femme de plus, ou des enfants supplémentaires. Non, il va avoir un nouveau nom. C'est-à-dire un nouveau caractère, une nouvelle identité. Et c'est ça, ces moments importants avec Dieu. C'est qui sommes-nous devant Dieu ? Je crois que c'est Pasteur Sivan, pour le coup, qui disait ça. Il disait, on est ce que nous sommes réellement quand on est seul devant Dieu. Devant quelqu'un d'autre, on n'est pas qui nous sommes. Mais devant Dieu, on peut pas cacher. Il connaît nos pensées, il connaît nos humeurs, il connaît tout. Donc, et peut-être éventuellement, on peut être séduit devant Dieu de croire qu'on est quelqu'un. Dans tous les cas, voilà, on est vraiment ce qu'on est devant Dieu. Par exemple, est-ce que je prie à Dieu ? Ma vie de prière, ce n'est pas simplement est-ce que je prie dans le corps de Christ, est-ce que je prie seul devant Dieu ? Qu'est-ce que je pense devant Dieu ? Comment je me vois devant Dieu ? Comment je me décris devant Dieu ? Quelle est mon identité ? Et ce que tu es en train de lui donner l'Éternel, c'est sa vraie identité. Tu t'appelleras Israël, prince d'une nation. C'est le nouvel homme. Et c'est lui qui peut vraiment entrer dans les bénédictions après. Et c'est ça qui va changer en fait toute chose. Et donc, il dit, ce ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. C'est quand même une superbe histoire. C'est-à-dire que Jacob, comme il a toujours eu un fond de discernement spirituel, malgré son épaisse couche de péché ou de chair, il a discerné que c'était Dieu qui était là encore une fois. Il a discerné qu'il y avait un temps limité, qu'il allait partir et qu'il voulait être béni. Et c'est la même chose, la même attitude. Je veux être béni dans mon église. Je veux être béni dans l'année que je suis en train de vivre. Je veux être béni dans mon mariage. Je veux être béni dans mon travail. Je veux être béni. C'est que c'est là que je veux être béni. Parce que viendra un nouveau jour où je vivrai autre chose avec Dieu. Mais Dieu est vivant dans la situation qui est la mienne. Là, je suis seul avec Dieu. En plus de ça, il me luxe la hanche, je suis encore plus faible, ben, ce n'est pas grave. Je profite de ce moment. Pourquoi ? Parce que même avec cette hanche déboîtée, Dieu est toujours là. Et donc, je m'agrippe à lui. Je m'agrippe. Il aurait pu dire, ah, voilà, qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis, s'occuper de sa blessure. Non, il s'occupe toujours de l'Éternel. Vous voyez la force de Jacob ? C'est pour ça que Dieu aimait Jacob. Parce que Jacob, il était aveugle, il était... Ouais, il est subjectif, charnel, mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui avait la foi. Et c'est pour ça que Dieu a préféré Jacob à Ésaü, parce que Jacob avait la foi. La question, c'est devant Dieu, est-ce que j'ai confiance ? Devant Dieu, est-ce que j'ai la foi ? Devant Dieu, est-ce que je peux le remercier, le louer, le remercier pour tout ce qui m'arrive ? Et c'est ce qui va se passer avec Jacob, il va dire au verset 30, « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Alors, il y a deux sens. Hein. Ça veut dire, mon âme n'a pas été détruite, parce que normalement, quand on voit Dieu face à face, on ne fait pas le poids. Mais aussi, c'est que mon âme a été transformée et qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il a été seul devant Dieu. Et c'est cette lutte-là. Deux fois, on lutte avec les autres. On lutte avec les circonstances. Et Dieu nous dit, laisse les circonstances, laisse les autres, lutte avec moi, passe du temps avec moi, recherche la vérité, recherche cette profondeur de la vie spirituelle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de qui sont appelés selon son dessein. Et Jacob était appelé par Dieu et Dieu avait un dessein. Et tout a concouru à son bien. Que Dieu vous bénisse.